pas grand-chose à signaler, si ce n'est la bonne tenue du compartiment technologique grâce aux déclarations, aux annonces de Tata Consultancy. Le titre a d'ailleurs signé un nouveau record en bourse. Il a profité à Capgemini qui gagne 5,3% à la clôture.
Merci Céline Pentex d'investir pour RFI. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver bien entendu sur notre site internet www.rfi.fr. Et ceci 24 heures sur 24. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il est 18h et quasiment 10 minutes à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
En ce moment et jusqu'au 12 octobre, c'est la fête de la science en Pays de la Loire. Un événement familial, ouvert à tous et gratuit, pour découvrir les sciences de façon ludique et originale. Les 10 et 11 octobre, rendez-vous à la Bibliothèque universitaire de Belle-Beille pour le Village des sciences d'Angers. Plusieurs espaces d'animation, de démonstration et d'exposition vous attendent. Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et questionner les scientifiques venus à votre rencontre pendant ces deux jours. Programme complet de l'événement sur www.fetedelascience-paysdelaloire.fr. Tous et bonsoir à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio G et de son oreille curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales. Ce soir, je vous propose de sortir et de sortir de la ville. Nous allons à Loire-Authion, une commune à l'est d'Angers qui vous réserve une belle programmation culturelle. On va la parcourir et la découvrir ensemble. Vous découvrirez aussi des reportages qui vous accompagneront chaque jeudi, désormais dans cette émission, et nous parlerons du dispositif du service civique. Ce soir, on va voir ce qu'il en est du côté de l'Île-Dieu, en Vendée. Enfin, nous retrouverons Émile, qui nous parle ce soir de l'évolution du format de l'album, oui, l'album de musique, et plus particulièrement dans la musique urbaine. Voilà, vous connaissez le programme de cette émission. Elle est réalisée comme tous les jours par Anne-Li. Oui, c'est moi. Et vous ne connaissez pas encore le proverbe du jour qui est « Il vaut mieux se disputer avec quelqu'un d'intelligent que parler à un imbécile ». Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, mais je vous laisse y réfléchir. On commence cette émission en musique avec Trax de UL Lamor et on retrouve nos invités juste après. direction maintenant la commune de Loire-Authion, avec qui nous sommes partenaires sur la saison culturelle. Et pour parler de cette saison, je reçois ce soir Yvan Ravaz. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes directeur de l'action culturelle à Loire-Authion. Et Céline Ducoc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes programmatrice et coordinatrice de cette saison culturelle. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, cette saison, elle a été lancée il y a une dizaine de jours lors de l'événement Le Banquet. J'imagine que ça a aussi été un plaisir de retrouver le public, l'air, les artistes, enfin, tout ce monde-là. Pour autant, c'est une saison qui a été bousculée, bouleversée et qui va l'être aussi, comparé à ce que vous avez pu faire précédemment avec toutes ces mesures sanitaires. Comment est-ce s'annonce pour vous? Comment ça s'écrit? Ça se prépare?
Bah, d'abord, en deux mots, dire le plaisir qu'on a de pouvoir reprogrammer, de reproposer des spectacles aux habitants de Loire-Authion et d'ailleurs. Ça a été long, voilà, depuis mars dernier. Ça a été long, mais voilà, on peut à nouveau proposer des choses. Alors oui, il s'agit de s'adapter. Il y a des protocoles qui sont évidemment en place, qu'on respecte scrupuleusement. Mais ça permet, quoi qu'il arrive, d'accueillir dans les meilleures conditions les spectateurs et les artistes et d'assurer cette rencontre-là qui nous a effectivement tant manqué depuis quelques mois.
Je ne sais pas si vous vouliez réagir aussi, Céline.
Bah, c'est vrai que la particularité de la saison, c'est qu'on a dû la faire avec aussi le confinement. Elle s'est fabriquée un peu à distance. Donc c'était un contexte un peu particulier, mais avec beaucoup d'envie. On a en effet... On s'est projeté, on a construit les uns avec les autres collectivement pour que cette saison ait lieu. Et c'est vrai que de pouvoir la démarrer il y a une dizaine de jours en plein air et puis avec le contexte qu'on connaît, c'était plutôt une bonne chose.
Ouais. Y a une partie des spectacles qui étaient programmés, qui ont dû être annulés avec le confinement, une partie ou tout d'ailleurs, tous les par rapport à la reprogrammation de ces spectacles, comment vous avez choisi de faire?
Alors la fin de saison a été annulée à partir de la mi-mars le contexte n'a plus permis d'ouvrir les salles de spectacle, donc on a dû annuler, les élus ont fait le choix d'annuler cette saison, mais de reprogrammer l'ensemble des spectacles sur la saison actuelle. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a fait de plus ou moins court terme. Il y en a qui arrivent tout de suite, il y en a qui arriveront plus tard dans la saison. Il y a des spectacles qu'on a choisi de reprogrammer dans des lieux différents parce que voilà, ils prenaient une résonance un peu tout autre, mais en tout cas toutes les compagnies reviennent, donc ça c'est aussi agréable de pouvoir malgré tout proposer ces spectacles, donc voilà, on a continué dans ce sens là
Ouais. Et j'ai l'impression aussi que cette année, ce confinement, les mesures, ça a dans beaucoup de structures un peu changé les façons de faire. Ça a renforcé les liens qui pouvaient exister avec d'autres structures aux alentours. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous à Loire-Authion, cette idée de coopération avec les autres acteurs, structures du territoire.
Alors c'est le cas, oui, ça se traduira pas nécessairement dans la saison à venir, mais on a eu la chance cet été de travailler avec le Quai, à l'occasion de sa programmation délocalisée. Donc on a eu le plaisir d'accueillir la ferme des animaux dans une ferme pédagogique à Andard, c'était un très beau moment. Après ça nous a aussi amené à revoir la position ou à clarifier la position de la collectivité en termes de programmation vis-à-vis des compagnies artistiques elles-mêmes. Voilà, là on parle de report, mais on est encore dans un contexte qui est très incertain malheureusement, et donc il nous faut anticiper malheureusement ce qui pourrait se produire
des
et d'éventuelles
A,
nouvelles annulations
ouais.
ou d'éventuels nouveaux reports. Donc ça nous a amené à formaliser un positionnement, ce soutien de la collectivité aux compagnies artistiques. Quoi qu'il arrive, les compagnies qu'on souhaite programmer, qu'on donnera à voir cette saison, elles seront soutenues si jamais, voilà, malheureusement, on ne peut pas les accueillir dans les conditions prévues.
Ouais, l'idée, c'est d'inviter des artistes. Il y a le spectacle, il n'y a pas le spectacle, il y a quand même le travail.
Il y aura le soutien
fait
de la commune, quoi qu'il arrive.
Ouais, ouais, et ça, c'est aussi hyper important pour que la création puisse continuer. Et vous faites partie aussi des structures qui annoncent là une saison complète qui va jusqu'au mois de juin. Et c'est plus si courant, ou en tout cas, c'est plus l'habitude. Ça, comment... Pourquoi vous avez fait ce choix-là ?
Alors, il y avait plusieurs hypothèses. Hein. Alors, il se trouve que la saison sur laquelle on a travaillé, on l'a imaginée, comme Céline le disait, on l'a imaginée depuis le mois de mars dernier. Elle a été élaborée entre le mois de mars et le mois de mai dernier, donc en plein confinement, mais ça a permis d'aboutir, de créer quelque chose. Et parmi les différentes hypothèses qui ont été étudiées, celle de communiquer sur une saison dans son entièreté a été retenue, parce que voilà, c'était l'envie aussi des élus de l'Eurotion, de montrer le travail tel qu'il avait été porté, tel qu'il avait été imaginé, pour donner à voir voilà, tout ce que la collectivité proposait jusqu'au mois de juin 2021. Alors effectivement, il y a peut-être des choses qui bougeront d'ici là. Il s'agira de s'adapter, de communiquer aussi différemment en cours de saison. Mais voilà, on fait le pari que cette saison pourra se dérouler. Et puis c'est une saison, effectivement, c'est un projet surtout à l'Eurotion, la manière dont elle est pensée collectivement avec l'ensemble des comités locaux, des bénévoles, des partenaires associatifs. Voilà, c'est un ensemble qui nous semble de plus en plus cohérent, et donc on avait envie de le restituer de cette manière-là.
Oui, c'est vrai qu'il faut imaginer que les lieux changent. Enfin, il y a les différents bourgs, les différentes communes associées. C'est comme
commune
ça qu'on
déléguée,
dit.
Ouais.
Déléguée, commune merci. Déléguée. Je ne suis pas encore à fond là-dedans. On va parler des prochaines dates qui viennent là, la semaine prochaine. Le prochain spectacle aura lieu le 15 octobre. Et alors, on va être à la fois aux côtés d'une contrebasse et aux côtés du répertoire de Georges Brassens. C'est Contrebrassens de Pauline Dupuis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce spectacle-là ?
Oui, donc c'est un spectacle de chansons, c'est un duo, un homme, une femme, donc porté davantage par Pauline Dupuis qui est l'interprète. La particularité, c'est vrai que c'est le répertoire de Georges Brassens porté par une femme, donc c'est un peu singulier, une jeune femme en particulier, qui a beaucoup de talent, c'est quelqu'un qui est en train de percer sur la scène nationale. Qui a cette énergie et en tout cas cette joie communicative de remettre les mots de Brassens et de les faire résonner dans notre aujourd'hui, parce qu'elle a fait le choix de porter des textes qui donnent une certaine image de la femme. Et c'est intéressant parce que pour beaucoup on a l'image d'un Brassens un peu parfois misogyne. Ça déconstruit un peu ces images-là. Et à la fois, c'est très ludique. Elle est accompagnée par Michael Rouquet, qui est un instrumentiste assez formidable et qui apporte une modernité dans les arrangements. Donc c'est aussi pour ça qu'on défend ce projet avec le comité de Brin, qui a vraiment été partie prenante là sur cette programmation, parce qu'on pense qu'il peut toucher à la fois un public plus amateur de chansons françaises, mmh, classiques on dira, et à la fois un public plus jeune qui viendrait découvrir ce type de proposition.
Ouais, ça permet vraiment de revoir le répertoire. Vous vouliez réagir, Yvan?
Non, et puis spectacle qui sera proposé dans un lieu assez intimiste. Voilà, là on va travailler dans notre capacité à nous adapter aussi dans les mois à venir. Il y aura un gros travail sur les jauges. Alors, de fait, on va travailler sur des jauges plus réduites, mais ce qui donnera un côté intimiste aussi à ce spectacle-là.
Un peu privilégié aussi.
Ce qui s'y prêtera tout à fait.
Ouais, on est dans un très beau lieu, la Grange de l'Hôpital, là, qui est un lieu qui a été restauré et qui donne cette qualité aussi de proposition, qui n'est pas une salle de spectacle en tant que telle, mais vraiment un écrin. Voilà, ça participe aussi des propositions en milieu rural.
Ouais, d'un petit lieu. Oui. Il faut réserver rapidement, peut-être.
C'est en train de se remplir, ouais.
Oui, d'accord. Bon, alors si vous écoutez l'émission et que ça vous intéresse, effectivement, c'est la semaine prochaine à 20h30, le 15, à Brin. Ensuite, les deux prochains spectacles qu'on peut retrouver dans votre saison, ce sont des spectacles jeunes publics. L'un le 21 octobre et l'autre le 28 octobre. Alors, le premier, et après, c'est quoi ? C'est le titre. On peut le voir à partir de l'âge de 6 ans. Alors, il n'y a pas de limite. Hein. C'est plein de chansons. Comment vous nous le racontez, ce spectacle-là ? C'est aussi un peu un ciné-concert.
Oui, c'est ça. C'est un spectacle qui a la particularité d'allier vraiment un travail sur l'image et sur la musique. Pascal Perotto, c'est avant tout un musicien. Là, il est en trio avec des musiciens qui sont vraiment des très bons interprètes et qui ont fait le choix de présenter des poèmes, la plupart de poètes plus ou moins connus, mais qui sont mis en image par différents réalisateurs de films d'animation. Et autour de ça, il a mis en musique tout cet univers. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir proposer un temps visuel pour les plus petits, mais aussi avec une proposition musicale de qualité. Mmh. Donc c'est la première proposition jeune public, puisque le jeune public a une place importante dans la programmation de Loire-Authion. C'est un rendez-vous qui est devenu un peu incontournable des vacances d'automne. On sait qu'on a un public qui répond présent régulièrement. Ouais. Donc voilà, ce sera à l'espace du Séquoia à Cornet.
Ouais, à 15h le 21. Et c'est vrai que les ciné-concerts, il y a toujours un côté magique, moi je trouve, de ces images, du son, du direct, de tout ça qui se mélange. Voilà, moi c'est...
C'est m'égare. C'est souvent une découverte aussi pour les plus jeunes de voir comment la musique se compose en direct et comment ces images peuvent se répondre. On a souvent aujourd'hui beaucoup d'écrans dans nos vies. Mmh. Et là, c'est une approche différente. On est plus proche du cinéma et pourquoi pas du cinéma muet finalement du début.
Ouais, c'est pas les mêmes écrans.
Ouais, c'est ça.
Et l'autre proposition, pareil, pour les plus jeunes, alors là on est sur un âge de départ encore plus petit, et c'est assez génial, donc c'est à partir de 2 ans, ça s'appelle Les Petites Bêtes de Christelle Pimenta, c'est le 28 octobre. Là on parle de toutes ces petites bêtes qui nous font peur et qui nous attirent.
Oui, c'est ça. Alors, la particularité de la proposition, c'est qu'elle est intégrée à une saison qui est proposée par les médiathèques de Loire-Authion, qui s'intitule Cultivons nos jardins. Et l'objectif, c'était de proposer des temps de rencontre, de programmation autour de cette thématique. Donc, les petites bêtes sont venues un petit peu naturellement, puisqu'elles hantent ou peuplent nos jardins. Ça dépend des points de vue où on se place. Et Christelle Pimenta, c'est une conteuse avant tout. Là, elle est accompagnée par un musicien en scène qui a vraiment écumé, dans le bon sens du terme, les scènes de français de Navarre. Et qui a cette maîtrise du verbe, du rythme, et en particulier pour les tout petits, puisque c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident.
Ouais, il faut capter l'attention, même si c'est sur des durées assez courtes, parce qu'il faut que ce soit adapté aussi aux plus jeunes.
Tout à fait.
Ouais.
Donc avec un rythme, avec une musicalité, avec une proposition aussi qui n'est pas bêtifiante, mais qui donne même aux adultes l'envie de partager ce moment ensemble.
Moi ça me rend curieuse en fait.
Je rajouterais juste là pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur cette saison dans la saison qui est portée par le réseau médiathèque de Loire-Authion, qui verra donc tout au long des mois à venir des propositions, alors qui ne seront pas sur une thématique exclusive, mais ce thème du jardin sera proposé tout au long de l'année, à travers du conte, comme ce sera le cas ici, à travers des rencontres d'auteurs, à travers des projections cinéma. Et ce jusqu'au mois d'avril, voilà, dans les 7 bibliothèques et médiathèques de Loire-Authion. Une programmation qui est vue sous un nouvel angle désormais, et qui fédère l'ensemble des bibliothèques là sur plusieurs mois.
Ouais, et qui travaillent toujours ensemble pour proposer des actions, des ateliers, des événements.
En plus de l'offre documentaire
du cœur de métier
plus classique. Mmh. Mais ce qui fait écho aussi à un fonds thématique qui est développé depuis quelques temps par le réseau médiathèque, fonds thématique intitulé Fleuve et Végétal. Donc voilà, cette année, on fait le choix de mettre en lumière ce volet dédié au végétal. Et je rebondis aussi sur le fait que ce soit un spectacle qui s'adresse aux tout petits. Alors évidemment, à vivre en famille, mais c'est un axe, voilà, qui nous paraît très important, un public auquel on a vraiment envie de s'adresser, le jeune public dans son ensemble, mais les tout petits, voilà, sont aussi des acteurs importants auxquels on souhaite s'adresser, dans le réseau médiathèque en particulier, mais à travers la saison culturelle aussi.
Oui, et c'est important qu'ils aient aussi leur place.
Qu'ils aient leur place, oui.
Leur spectacle. On va peut-être faire une incursion rapide dans un spectacle qui a lieu un petit peu plus tard. Le 10 novembre, c'est le Siffleur de Fred Radix. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une reprogrammation aussi. Alors, quoi dire sur ce spectacle qui, je crois, est assez virtuose?
Oui, c'est ça. En effet, c'est le rendez-vous manqué du mois de mai, voilà, qui est reporté au mois de novembre et qui sera d'autant plus agréable en salle à cette époque-là. Donc le siffleur, Fred Radix, oui, voilà, c'est un virtuose du sifflet, et qui est, alors, au-delà de la performance technique, puisqu'il y en a une qui est réelle,
de faire plein de sons juste avec,
voilà,
ses lèvres,
c'est ça, de siffler des morceaux de musique classique ou autre uniquement en solo. Mais au-delà de cette performance-là, il y a aussi un personnage, un jeu, un humour assez grinçant et malin, et qui est plutôt qui rend accessible la proposition. Fred Radix, il a pareil beaucoup travaillé en rue avant d'être sur les plateaux de théâtre. C'est un musicien avéré aussi et qui avait été beaucoup sur les scènes de musique actuelle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la scène et qui sait la faire partager à son public.
Oui, parce que quand tu parles de jeu, c'est un jeu avec le public aussi. Ouais. Enfin voilà,
il y a de l'interaction vraiment.
Sur scène et en gradin.
Ouais, ça, j'imagine des choses qu'on ne saura jamais faire ou que je ne saurais jamais faire en termes de sifflement. C'est le 10 novembre, ça c'est un rendez-vous important aussi de cette saison, le siffleur.
Oui, et puis c'est la particularité de cette année, on a essayé de proposer avec les comités locaux avec lesquels on a travaillé des dates en semaine. Voilà, c'est aussi, on se rend compte que le week-end est un temps où on peut sortir en famille, où on peut apprécier de venir au spectacle, mais également la semaine. On a un public qui est en attente de propositions. Donc voilà, on est la veille du 11 novembre, c'est un peu particulier, mais on aura d'autres propositions comme ça en semaine tout au long de la saison.
Ouais. Toutes les infos, je renvoie un peu vers votre site loire-autian.fr.
Avec une billetterie en ligne, voilà, donc ne pas hésiter à s'y rendre.
Ouais, et il vaut mieux réserver d'avance. Je crois que je le répéterai beaucoup cette saison. On a un peu de temps aussi pour parler d'un autre rendez-vous qui est en cours en ce moment et jusqu'au 11 octobre. C'est la clôture de résidence de la photographe Ariana Sanesi, qui a travaillé plusieurs mois à Loire-Authion et qui a parcouru le territoire. Alors, on va retrouver des expositions, que ce soit en intérieur, en extérieur. Comment on va pouvoir découvrir son travail ?
Alors, on a actuellement deux installations qui sont proposées dans des lieux un peu insolites. Un ancien accueil de loisirs désaffecté, voilà, qu'on s'est réapproprié le temps de l'exposition, qui court là jusqu'à ce dimanche. Et puis, une exposition en parallèle dans un autre lieu insolite, qui est le Bricolab, qui est géré par l'association Éclat, une sorte de Fab Lab là, ouvert aux habitants, qui est un lieu vraiment intéressant dans lequel on trouve plein de machines et plein de compétences à partager. Et donc, ce sont deux installations qui me donnent à voir le travail qu'Ariana a mené sur le territoire depuis le mois de janvier. Alors, elle n'habite pas le territoire, elle est domiciliée sur Paris. Mmh. Elle est d'origine italienne, Ariana Sanesi. Et on l'a accueilli à l'occasion de plusieurs séjours sur le Rothion. Et en l'invitant d'abord à aller à la rencontre des habitants, donc elle a animé un certain nombre d'ateliers auprès de différents publics en résidence autonomie, dans diverses écoles. Et on lui a aussi demandé de porter un regard sur les paysages de l'Orothion et d'interroger notre rapport à l'eau. Alors il se trouve que l'Orothion est parcouru par deux cours d'eau importants qui donnent leur nom à la commune. Et donc elle a porté ce regard-là et à nous le restituer à travers ses installations. Et elle nous le restituera également à travers des collages d'affiches qui seront proposés dans les prochaines semaines. On est en train d'y travailler, mais ça devrait être en place d'ici la mi-octobre. Collage d'affiches grand format au cœur des communes déléguées de l'Orothion. Donc là, voilà, c'est comment réintégrer de la nature, du paysage au sein de nos centres-bourgs et questionner de fait par ce biais-là notre propre rapport à notre environnement, à nos paysages.
Oui, donc ça fera un parcours aussi.
Exactement, un itinéraire d'Ariana sur l'Orothion.
Ouais, et tout ça, c'est gratuit.
Bien sûr.
Les ouvertures, on va les retrouver plus en détail sur le site, mais sinon, c'est plutôt en fin de semaine.
Les samedis et dimanches, le mercredi également pour l'ancien accueil de loisirs de Bonnet et le jeudi pour le Bricolab qui est à Cornet.
Waouh, vous avez tout dit. Est-ce qu'on aurait oublié des choses importantes pour parler de cette ouverture de saison à Loire-Authion ensemble aujourd'hui?
Il y a plein de choses à découvrir. Évidemment, toutes les informations sont en ligne. Il y a une plaquette de saison pour ce qui relève du spectacle vivant qui est en cours de diffusion également. Voilà, c'est une année qui recommence, qui est pas comme les autres, évidemment, mais qui nous invite à nous questionner. C'est aussi tout l'objet de l'art et de la culture en général. Ben là, on est par la force des choses encore plus amené à le faire. Mais c'est encore mieux quand on le fait collectivement et quand on arrive à partager ça.
Ouais. Bon, merci beaucoup à tous les deux, Céline et Yvan.
Merci.
Et on se retrouvera bientôt à l'antenne pour parler de la suite de cette saison de Loire Audion.
Avec plaisir.
Avec plaisir, oui.
Good for my ambition. Find the man who stole diamonds in the museum last month. Monday I took a plane, Tuesday already pain. Always the same melody that sings only happen to me. Look at this man, pick up the stick. Look at this man, put her on the neck. Look at this man, he got the stick. Look at this man, put her on the neck. Look at this man, he got the stick. Look at this man, put her on the neck. Look at this man, he got the stick. Look at this man, put her on the neck. Caribbean islands, but I drank too much rum. I miss so much my mom. Up under a coconut tree, an apple made on me. I choose a chair to sit, which got broken feet. Look at this man, he got the stick. Look at this man, all around the neck. Look at this man, he got the stick. Look at this man, all around the neck. Look at this man, he got the stick. Look at this man, all around the neck. Look at this man, he got the stick. Look at this man, all around the neck. I am my own danger, not afraid by the whole stranger. Even if he got a snake all around his neck, I didn't understand that he was so close to my end. Diamonds in the stomach of the snake, I'm not a crack. Look at this man, he got the snake. Look at this man, all around the neck. Look at this man, he got the snake. Look at this man, all around the neck. Look at this man, he got the snake. Look at this man, all around the neck. Look at this man, he got the snake. Look at this man, all around the neck.
Vous êtes à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM à Angers et vous écoutez L'Oreille Curieuse, la quotidienne. On retrouve maintenant un nouveau programme que je vous proposerai le jeudi. C'est une série de reportages sur le dispositif du service civique. Peut-être que ça vous parle déjà un peu, le service civique. Ces reportages, leur titre, c'est « Un engagement ». Des réalités. C'est une production des radios associatives de la région avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Aujourd'hui, direction la Vendée avec un premier reportage réalisé par Neptune FM, une radio basée sur l'île Dieu.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Durant ce rendez-vous, Anaïs Vaignan, chef de projet à l'association Youki, nous a ouvert ses portes. Mais aussi Georges Biro, le président du collectif agricole, nous reçoit dans son jardin de la mer. Manuel Guillon, le responsable du service culturel à la mairie de Île-Dieu. Et pour Philippe de Brémond-Dars, le président de l'association Musique Aïeux, le dispositif est connu et serait prêt à accueillir une personne en service civique.
J'ai envie de lui dire oui, parce qu'il y a quand même des choses à découvrir quand on organise un spectacle et un concert. Chose de sympa. Toute la partie cachée, j'allais dire, le côté administratif, le côté recherche des artistes, le côté négociation, le côté technique, l'installation. Il y a vraiment un ensemble de paramètres et de facteurs qui fait que le spectacle doit être réussi.
Dans les associations de cirque Youki à Lille-Dieu et Babel à Nantes, Anaïs Vaignan, chef de projet, connaît également le dispositif, mais n'a recruté aucune candidate et aucun candidat.
On nous a fait la demande sur, on va dire, sa jumelle sur le continent d'associations. Il y a association Youki à Lille-Dieu, il y a eu association Babel sur le continent. Et sur le continent, on nous a demandé plus souvent ce genre de choses. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que on n'avait pas assez de travail à fournir au service civique, tout simplement. À Lille-Dieu, ça serait la même chose.
Georges Biro, président du collectif agricole, lui aussi connaît le dispositif, mais le recrutement sur Lille-Dieu n'est pas simple du fait de l'insularité.
On a demandé l'agrément a été accordé, et ensuite on voulait recruter un service civique pour pouvoir animer les ateliers alimentation durable au printemps. Et puis ça s'est pas fait, pour non pas à cause du Covid, mais c'est parce que on a trouvé plusieurs personnes, mais qui n'étaient pas de l'Île-Dieu. Et ça, c'est un gros handicap, parce que en fait, les personnes, elles n'avaient pas de logement, donc l'indemnisation du service civique est trop faible pour pouvoir se payer un logement et quand même avoir un peu d'argent pour se nourrir, faire un peu de loisirs et tout ça, quoi. Donc on a eu 3 personnes vraiment intéressées, puis qui ont abandonné à cause des problèmes d'argent. Mais le problème, c'est on ne peut pas repartir le week-end comme on veut, surtout l'hiver. Il y a un bateau le matin, un bateau le soir, c'est pas évident, quoi.
L'engagement en service civique est intéressant, notamment pour les personnes en recherche d'emploi. Georges Biro, président du collectif Alcool du Île-Dieu.
C'est intéressant parce que quelqu'un qui est en attente de travail, ça peut être un moyen d'avoir quelque chose à mettre sur son CV. Il a une expérience professionnelle. Ça peut être très intéressant pour des personnes en recherche d'emploi, quoi.
Georges Biro, président du collectif agricole, s'étonne qu'aucun îlet n'a postulé, mais a peut-être le début d'une explication.
Exactement, on n'a eu aucun îlet à postuler, c'est ça qui nous a étonné, parce que y a quand même un certain nombre de gens qui sont au chômage. Alors peut-être que là, justement, ça vient du fait que les chômeurs, par exemple, ne sont pas au courant du service civique. Après, de savoir ce que c'est le service civique, en quoi ça consiste, la rémunération et tout ça, bon, je crois que peu de gens sont au courant, en fait.
Malgré ces différents freins, le collectif agricole de Île-Dieu n'exclut pas le recrutement d'un service civique.
Pourquoi pas l'année prochaine, par exemple, si, parce que là, finalement, l'animation des ateliers alimentation durable, on a recruté une personne à 1/5 de temps pour pouvoir les animer. Et c'est vrai que si on voulait continuer les ateliers l'année prochaine et qu'on pouvait avoir un service civique, pourquoi pas?
Pour finir, Manuel Guillon, responsable du service culturel à la mairie de Île-Dieu. Dieu connaît également le dispositif. Si un volontaire se présente, il pourrait l'accueillir.
Très volontiers, oui, je pense. Enfin, après, c'est à voir avec l'ensemble de l'équipe. Moi, je n'impose rien aux équipes. Donc, c'est en voir en concertation avec les équipes. Mais oui, s'il y avait une demande, je pense qu'on l'étudierait avec bienveillance, en tout cas.
Laurent, Radio Neptune FM, à Île-Dieu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Voilà pour ce passage par l'Île-Dieu. Et maintenant, on retrouve Émile. Salut Émile.
Salut.
Et tu nous as préparé une chronique sur le format des albums musicaux, et plus particulièrement dans la musique urbaine.
Tout à fait. En gros, vous le savez peut-être, mais les albums musicaux sortent le vendredi, un peu comme les films qui sortent tous les mercredis. Et cependant, à l'ère de la consommation musicale en streaming et à l'accès du tout de suite, le format album peut aujourd'hui être un peu considéré comme désuet ou dépassé, où avant le streaming, ce format c'était vraiment le Graal pour les artistes. C'était la source de revenus principale de leur musique. Et c'est comme ça qu'on les voyait s'afficher avec des grandes richesses.
Sortir un album, c'était quand même un
exactement.
Truc, quoi.
Puis il y avait toutes les certifications, disque d'or, disque de platine, tout ça. Et avec le streaming, en fait, le mode de consommation de la musique a totalement changé. Le temps moyen des chansons est descendu sous la barre des 3 minutes. Les playlists maintenant prédominent et les revenus des artistes ont drastiquement baissé avec le streaming, vu qu'il y a eu des ajouts d'interlocuteurs, tout ça.
Pour faire le même prix que quand tu vends des albums, il faut faire des millions
ouais,
de streams.
Tout à fait.
C'est complètement différent.
Et du coup, cela leur apporte beaucoup moins, et si bien que désormais, ce sont en fait les concerts et les showcases qui, la plupart du temps, sont la source principale de revenus des artistes. Mmh. Auparavant, un album, c'était souvent considéré comme une espèce de voyage auditif, où ça racontait une histoire du premier au dernier titre, et ça, en tout cas, c'est une vision où l'album est perçu un peu comme un aboutissement personnel et esthétique et pour l'artiste, et c'est aussi un voyage, du coup, comme je l'ai dit, sonore pour l'auditeur. Et en 2019, il y a le SNEP, le Syndicat National de l'Édition Phonographique, qui a révélé que 90% des albums produits par les majors n'atteignent pas le seuil de rentabilité. Et en 2018, il y avait seulement 10% des albums français qui dépassaient les 50 000 ventes. Donc, avec des chiffres comme ça, on peut se demander pourquoi l'industrie musicale continue de produire autant d'albums. Mais en fait, déjà tout simplement, le format CD continue de se vendre, mine de rien, même s'il a beaucoup baissé les dernières années. Et c'est aussi un format qui compte pour les artistes, c'est un cap symbolique à franchir. D'abord, on sort souvent des EP et des mixtapes pour les rappeurs. Et après, on vient à l'album où là, c'est vraiment un peu l'apogée.
Ouais, ça rapporte peut-être moins, mais symboliquement, c'est quand ça. Même important, quoi.
Et mais c'est aussi, en fait, surtout le sujet principal des promotions d'artistes. On les voit toujours en télé, en radio, sur Internet, promouvoir leur album. Là, on va jamais les voir promouvoir juste un single. Ils vont pas faire la tournée des plateaux juste pour promouvoir une chanson. Les albums, depuis quelques années, ils s'adaptent sans cesse aux nouveaux usages des publics. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums qui prennent plus la forme de playlists, où il y a moins d'histoires, entre guillemets, mais en fait, ça veut juste être des sons qui vont s'enchaîner sans forcément de logique. Et voilà, c'est juste l'artiste qui s'est fait plaisir. Et je me suis perdu, pardon. Il y a même certains artistes qui privilégient la quantité en sortant des doubles albums de 40 titres.
Maître Gims.
Je pensais pas à lui, mais par exemple, il y a Jul en France, mais il y a aussi Chris Brown qui avait sorti un double album. Où en fait, c'est pour élargir le spectre d'auditeurs qu'ils peuvent toucher. Vu que dans les 40 morceaux, ça va pas être 40 fois la même chose, il va y avoir plein de genres différents. Donc ils peuvent toucher plein de personnes différentes. Et en fait, souvent maintenant dans les albums, on les écoute, mais surtout on les survole. Mmh. Et on va garder les 2-3 sons qui nous ont plu, et puis le reste, on va un peu les oublier. Donc pour contrer un peu ça, il y a même des artistes qui ont essayé de fragmenter en fait des projets. C'est le cas de Justin Bieber. Bon, c'est plus le Justin Bieber qu'on a connu il y a quasiment 10 ans, qui chante Baby Baby, mais c'est devenu comme un artiste un peu plus respecté.
Oui, et puis c'est intéressant de voir quand même comment il se positionne vis-à-vis de toutes ces évolutions de la musique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi.
Et lui, il a fait le choix de sortir 6 EP de 5 morceaux chacun, où en fait, avec une règle, c'était un EP pour une ambiance. Donc il y avait un EP un peu R&B, un EP avec des chansons d'amour, un EP avec des morceaux plus festifs, etc. Mm-hmm. Et en gros, c'est qui sont faciles à écouter, qu'on peut écouter partout, c'est des formats courts, et c'est aussi surtout un bon moyen de tenir en public, en haleine le public, sous plusieurs mois en sortant ces projets à espace régulièrement. Il y a certains aussi artistes qui, eux, misent juste uniquement sur les singles, afin de se faire une place en radio et dans les playlists des plateformes de streaming, et en général de s'assurer un certain succès auprès du public. Et après, il y a d'autres artistes comme Kanye West qui vont juste se permettre de modifier leur album plusieurs mois après leur sortie. Ça a été le cas pour son album The Life of Pablo, où il a rajouté certains morceaux, il en a modifié d'autres. Et en gros, ça, le streaming permet ça ultra facilement, parce que du coup, c'est juste un petit MP3 glissé.
Donc en fait, ça a pu donner un album qu'on a écouté 5 mois plus tôt, qui est différent de l'album qu'on écoute après.
C'est ça.
Mais c'est pas forcément indiqué sur la plateforme de streaming.
Non. Alors qu'avant, il y avait ça aussi, mais c'était plus avec des rééditions, où du coup, il fallait retourner à la Fnac ou chez le disquaire pour racheter l'album, avec déjà tous les morceaux qu'on a déjà écouté, plus 5 ou 6 morceaux en plus, quoi.
Ouais. Et là, si t'adorais la version précédente, tu la trouves plus.
Ouais. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, l'album, c'est plus un symbole qu'autre chose. Mais c'est aussi cette force symbolique qui lui a permis de perdurer. Sa forme, elle est plus fixe, elle doit plus tenir sur un CD qui pouvait stocker que X minutes. Mmh. Et d'ici quelques années, le format aura sans doute encore évolué. Et ça aura sans doute plus la même forme que les CD qui traînent sur nos étagères.
Merci beaucoup, Émile.
De rien.
Mais c'est vrai que les formes des musiques actuelles, elles sont hyper liées aussi aux techniques, que ce soit les CD, les cassettes, ou enfin bref, encore plein d'autres choses, mais on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Oui, peut-être que vous n'écoutez plus beaucoup d'albums en entier, mais en tout cas, il y a toujours des disquaires à Angers qu'on peut aller soutenir, et c'est plutôt chouette. On va se quitter avec un titre de Joule pour correspondre à cette chronique. Non, c'est une blague, je ne ferai pas ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ça fait 2 semaines qu'on teste ce générique, c'est ça ? Ouais. J'espère qu'il vous convient. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous informe que vous pourrez écouter toutes ces émissions en intégralité sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse. Nous, on se retrouve en direct lundi à 18h10 avec un invité ou une invitée surprise et la chronique croque-philo d'Émilie. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire des mots gentils, des mots méchants, tout ce que vous voulez, nous parler de votre vie et pourquoi pas. Ça se passe sur les réseaux sociaux de Radio G ou bien par mail à prog.radioG@gmail.com. À 19h, dans quelques minutes, vous retrouvez Droit Devant, l'émission d'Amnesty International. Je vous souhaite une très bonne soirée, à nouveau, un très bon week-end, un petit peu en avance. À lundi.
Radio G 101.5 FM. Babe, you and me. Love's a stranger. beautiful mess, time after time. I see it, girl.
Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We want to know how far that it can bend.
FM.